Vous êtes avec SBS French.
Merci d'écouter SBS French. Rendez-vous sur notre site sbs.com.au/french.
À l'occasion du Festival international du film pour enfants qui se déroule en Australie jusqu'au 20 juillet, je suis en ligne avec André Caddy et Karine Vézina. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Vous êtes les réalisateurs du film Hola Frida, qui est en sélection officielle. Et Hola Frida, c'est un film sur l'enfance de Frida Kahlo. Pourquoi avoir choisi ce thème et pourquoi l'avoir abordé par l'angle de l'enfance?
Ben déjà parce qu'il y a très peu de choses sur son enfance, donc c'était intéressant d'exploiter cette portion-là de sa vie qu'on connaissait très peu, que les gens connaissent très peu.
Ouais, puis en lisant ses lettres, on s'est rendu compte assez vite quand même qu'il y a beaucoup de choses qui venaient de cette période où elle a eu la polio à 6 ans. Puis elle-même, dans ses lettres, dans son journal, on parle beaucoup de cette période, alors que dans les différentes biographies, même dans les documentaires qu'on a regardés, ils en parlent très très peu, alors que beaucoup de choses ont commencé là. Les liens avec sa mère, les liens avec ses racines, même la base politique est vraiment a commencé pendant qu'il y avait vraiment les affrontements avec les zapatistes puis à Mexico. Donc c'est vraiment une période qui est intéressante puis qui est rarement exploitée, oui, pour Frida.
Vous l'avez un petit peu abordé, mais si on parle de Frida Kahlo plus en profondeur, donc c'était une petite fille qui a été à 6 ans atteinte de poliomyélite, c'est sa jambe droite qui était atrophiée. Elle a du coup eu un surnom terrible, hein, de la part de ses camarades de classe, Frida la Corra, c'est Frida la boiteuse. Est-ce que ce dessin animé pour vous, c'est une ode à la différence?
C'est surtout un ode à l'authenticité d'assumer qui on est en totalité, peu importe ce qui se passe, peu importe si ça plaît aux autres ou non, mais je pense qu'être capable d'assumer ce qu'on est dans nos défauts comme dans nos qualités, c'est plus le message central du film, je pense.
Toutes ces interactions avec l'ami imaginaire amenaient un petit peu ça. Chaque passage amène ça qui, pour un enfant, peut-être, va pas faire une énorme différence. Mais pour nous, c'est ça. La première fois qu'elle y passe, elle apprend, là, elle découvre un peu son monde imaginaire. Mais après, quand elle est intimidée, c'est des passages assez courts dans ce monde-là, mais où son ami lui fait, parce que c'est vraiment des phrases qu'on a lues dans les lettres. Quand elle disait, ah, il y a un moment, il y a un jour où là, ils ont été trop loin, ils m'ont insulté, j'ai pleuré. Donc, à partir de ce jour-là, j'ai décidé que plus jamais je m'intéresserai à ce qu'on pense de moi, puis que j'allais juste m'intéresser aux gens que j'aime, moi personnellement, puis les autres, je m'en fous complètement. Donc c'est vraiment dans cette période qu'elle a décidé beaucoup ça, puis c'est effectivement, elle s'est fait insulter, intimider, puis je pense que ça a forgé son caractère, puis sa mère l'a beaucoup aidée aussi là-dedans, sa mère qui était assez forte, assez rude, puis ça a commencé, je pense, cette période-là.
Vous avez assez bien réussi à, dans ce film, initier à la résilience, vous le disiez, l'imagination, la créativité, la positivité, l'art. Est-ce que vous pensez que, puisque c'est un dessin animé, tous ces messages sont accessibles pour un très jeune public?
Oui, absolument. Je pense que les jeunes, on sous-estime souvent ce que les jeunes comprennent de la réalité qui les entoure. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui les touchent beaucoup plus qu'on pense. Puis donc c'était pas vraiment un enjeu. Je pense que en plus dans un dessin animé, il y a beaucoup plus de choses qui passent que dans un film en real. Fait que c'est comme ça marchait bien.
Oui, puis en général, on essaie de faire des films à hauteur d'enfants, mais pas spécialement pour enfants. Nous, l'idéal, c'est que le parent ou un adulte ou un grand frère,
C'est
une
ce que
grande
je
sœur
voulais
soit
vous
là.
demander. Est-ce qu'il y a un
Oui.
autre niveau de lecture pour les adultes?
Oui, bah déjà dans Dounia, c'est un peu ce qu'on avait fait. C'est un film qui était dur pour les enfants de 5-6 ans, mais qui, quand ils étaient avec leurs parents, qui étaient là pour leur expliquer c'était quoi la guerre, qu'est-ce qui se passait, tout ça. Puis c'est drôle parce que dans Dounia, on les voyait réagir toujours au même moment, comme quand le petit canari mourait, tout ça. Puis là, c'est pareil. Là. Selon les âges, à 4-5 ans, là, c'est quand pendant l'ellipse, à un moment, ils se rendent compte que ça y est, Chiquita est morte de vieillesse. À chaque fois, les enfants se tournent vers les parents. Là. Morte. Puis quand je suis dans la salle, des fois, les enfants se tournent vers moi, mais offusqués quand on a tué
Comment
Chiquita.
avez-vous osé?
Mais c'est drôle parce que on l'a présenté vraiment partout. On l'a présenté en premier au Mexique, dans la Casa Azul directement. Donc, en premier aux Mexicains. On les présente aussi à Meknès, au Maroc. On les présente vraiment des gens très, très différents. Puis c'est toujours la même chose. C'est beaucoup, beaucoup les mamans qui vont avec leur petite fille ou leur fils voir le film. Puis c'est drôle parce que c'est vraiment souvent des questions dans les deux sens. L'enfant pose beaucoup de questions aux parents. Mais moi, j'ai beaucoup vu à Meknès, notamment là au Maroc, des parents qui demandaient à l'enfant parce qu'au bout d'un temps, ils avaient perdu le fil sur le monde imaginaire. Puis l'enfant en général, là, ils comprennent tout, puis ils répondent, oh, non, non, c'est ça qui se passe. Puis c'est drôle à voir parce que ça arrive quasiment tout le temps, là.
C'est assez magique, du coup, c'est bien au-delà qu'un simple dessin animé, bien sûr. Il y a même un partenariat pour lutter contre la discrimination, c'est avec Handicap International. Est-ce que c'était votre but dès le début que ce soit au-delà qu'un simple film d'animation de 82 minutes?
En fait, c'est que c'est obligé qu'on en parle. C'est pas qu'on a décidé de parler de handicap, mais comme ça fait tellement partie de sa vie, elle a tellement eu de problèmes de santé, de douleurs au dos, elle a porté des corsets, trucs. Fait que, tu sais, tout ça, ça fait tellement partie d'elle. On peut pas dissocier de son histoire, cette partie-là de sa vie. Donc, ça allait de soi qu'on allait en parler, mais c'était pas l'objectif premier d'en parler, mais on peut pas le passer à côté.
Ben, surtout qu'il y a des gens qui disent en plus, oh, j'adore pas les peintures de Frida, mais c'est vraiment le personnage que j'aime. L'idée, c'était ça un peu, c'est de faire un film, même pour les gens qui aiment pas spécialement la peinture ou quoi, puis qui vont juste avoir envie de la découvrir plus tard.
Oui, d'ailleurs, le film, vous l'avez vraiment concentré sur la personnalité de Frida Kahlo et moins sur l'artiste ou même son couple une fois adulte.
Ouais, surtout pas sur son couple, je pense que ça, c'est la partie qu'on aimait le moins de son histoire qui était moins, en tout cas. Mais oui, non, pour tout le reste, je pense que c'est parce que Frida, ça devient un modèle, c'est une personnalité qui est très moderne malgré tout, c'est une personnalité qui rejoint beaucoup de gens par toutes les difficultés qu'elle a passées, puis ça devient un modèle d'authenticité, puis de persévérance, de résilience, de tout ça. Donc, c'est vraiment universel comme sujet.
Puis la famille nous a dit, quand on leur a présenté justement que Joachim, ils ont dit, oh, vous n'avez pas fait un film juste sur Frida, vous avez fait un film sur notre famille, sur tout le monde, puis sur ce Mexique de ces années-là qui était passionnant, avec des courants politiques, des mouvements sociaux, des bouleversements technologiques et un retour aussi aux racines culturelles. Donc c'est vraiment une période qui était folle. Puis on y a été là, 2 fois à Mexico. Puis c'est vrai que c'est une ville incroyable. Quand on en est revenu la première fois, on s'est dit, oh, la barre est haute là, parce que en plus de Frida, il y a tout ça qu'il va falloir mettre dans le film.
Justement, vous avez eu l'aval de la nièce de Frida Kahlo, mais aussi de la directrice du musée Frida Kahlo. Toutes les deux ont validé le film, l'ont aimé. Est-ce que c'est une consécration quand on est réalisateur?
Oui.
C'est l'une des rares fois où on était stressé. Moi, on le présente pas devant des grosses salles, des fois. En général, on aime défendre notre film, on en parle, mais le présenter dans la Casa Azul, juste devant la famille, là, c'est, et à Morelia aussi, qui est un gros festival. Oui, c'était une pression parce que ils auraient très bien pu me dire, mais de quel droit vous l'avez fait, ou on pense pas que vous l'avez fait avec toute l'authenticité qu'on aurait aimé. Donc, oui, non, non, c'était un stress. Puis c'est une fierté que justement, que Perla du musée nous dise, mais faites-le. Justement, on y a été 1 an avant de faire le film, juste avant de finir l'écriture pour voir avec eux si c'était correct. D'ici, c'est pas correct, si vous estimez que ça se fait pas, ou si vous savez qu'il y a un projet qui est en cours, on va laisser faire. On a beaucoup d'histoires à raconter, donc on pourra passer à une autre histoire. Puis là, ils nous ont dit non, personne n'en parle. C'est peut-être parce qu'elle est trop grande, mais personne n'en parle, personne parle de son enfance. Donc ils nous ont dit faites-le vraiment version mexicaine, double au Mexique, puis on va le passer dans les écoles, puis on va pouvoir se réapproprier ce trésor qu'est Frida Kahlo.
C'est très intéressant d'ailleurs qu'il soit diffusé dans les écoles parce que on a parlé de la maladie, de la différence, mais vous abordez aussi le thème du harcèlement scolaire, qui est un thème assez difficile.
Et tout à fait d'actualité. Je pense qu'à travers les époques, ça a toujours existé. Donc, faut en parler, trouver des solutions, des façons de l'aborder, des façons de réagir à cette problématique-là. Donc, non, c'est super important d'en parler, je pense.
Ben surtout, on a tellement été déçus par certains films, justement, sur le harcèlement, où on en a parlé, on en parle encore 5 ans plus tard, des films qu'on a vus, où il n'y avait pas de morale à la fin, où il n'y avait pas de solution, ça donnait l'impression que, OK, on ne pouvait pas s'en sortir. Alors que là, on a essayé à la fois, Frida, elle y va par le dialogue, en tendant la main, à un moment, Raphaël, en essayant de comprendre, mais qu'est-ce qui lui arrive pour qu'il ait envie d'être méchant. On y va par la parole avec les parents. C'est important de faire la scène dans la cuisine où les parents lui disent, OK, c'est correct, apparemment, t'es pas traumatisé, mais tu nous en parles quand même. On voulait quand même que l'enfant se rende compte que si lui, il n'avait pas la force d'une Frida d'être capable d'assumer ça, il fallait absolument qu'il en parle à un adulte. Mais on voit aussi comment ses amis ont réagi dans la cour, comment Tonito, il réagit. Donc l'idée, c'était un peu de montrer qu'il y a beaucoup de façons d'en s'en sortir, mais avant tout, de commencer par le dialogue, de s'assurer que l'enfant qui lui-même intimide n'est pas lui-même en souffrance.
Manifestement, votre pari d'aborder des sujets difficiles et aussi d'aborder la vie de Frida Kahlo par son enfance a réussi, a été un pari gagnant puisque votre film est en sélection officielle dans plus d'une vingtaine de festivals, dont on le rappelle le festival en Australie, le Festival international du film pour enfants. Je vous ai déjà posé la question de la consécration en tant que réalisateur, mais est-ce que c'est une fierté pour vous, toutes ces nominations, ou est-ce que seule la récompense compte, sachant que vous avez déjà été récompensé dans certains de ces festivals?
Bon, je pense que juste être nominée, c'est intéressant, mais de toute façon, je pense que le plus important, c'est pas les prix, c'est d'avoir des enfants qui viennent nous voir et qui nous disent ah, moi maintenant, je m'identifie à Frida parce que moi aussi j'ai un handicap, tout ça m'a fait du bien. Je pense que c'est le plus important, c'est que si on est capable de faire connaître cette figure-là, de faire connaître la façon que tu peux vivre ta personne par des enfants qui apprennent à travers ça, c'est vraiment intéressant. Puis voir des enfants qui dessinent des dessins de Frida, des choses comme ça, je trouve que c'est encore plus valorisant que n'importe quel prix qu'on peut avoir.
Oui, non, c'est ça, c'est les nominations dans les festivals. Le simple fait qu'ils passent dans les festivals, même quand c'est des festivals où il n'y a pas de prix, de savoir que justement, des enfants australiens vont regarder, des gens en Afrique du Nord, au Maghreb, en Afrique noire, un peu partout. Donc, de savoir qu'ils veulent être vus en espagnol, en mexicain, ça, c'est notre plaisir, là. Après, les prix, c'est toujours plaisant parce que, surtout quand c'est donné par des professionnels, c'est bien de savoir qu'ils ont compris ce message-là, puis que le film, ils l'ont apprécié. Mais c'est sûr que ça change. C'est vraiment l'accueil des enfants qui est vraiment important.
La reconnaissance des professionnels, mais aussi du public qui est quand même la première cible de votre travail. André, Karine, Hola Frida, ce n'est pas votre première collaboration. Vous l'avez un petit peu abordé tout à l'heure, mais vous aviez déjà travaillé ensemble sur Dounia et la princesse d'Alep. Est-ce que vous avez d'autres projets pour la suite
Absolument.
Oui, on a
dont vous
beaucoup,
pouvez nous
mais très
parler?
différents. Il y en a un qui nous tient à cœur, qui est un peu ce qu'on a fait pour Frida, sauf que cette fois, c'est pour une peintre qui n'a pas eu la chance d'être redécouverte comme Frida. Parce que Frida a été redécouverte sur le tard. Il y a eu un 30 ans où elle était tombée dans l'oubli, puis c'est dans les années 70 qu'elle est revenue à la mode, puis que les féministes de la saison se sont réappropriées. Mais là, on est tombé sur l'histoire d'une peintre algérienne qui a vécu un peu la même chose, Baïa, puis qui est partie à Paris, qui est devenue l'égérie, la muse de Picasso, de beaucoup, qui était une part incroyable, qui amenait des couleurs que personne ne connaissait, puis qui est reparti en Algérie, puis qui est retombé dans l'anonymat total, puis qui a été obligé de se marier avec quelqu'un beaucoup plus âgé, puis qui, pour tout le reste de sa vie, a peint en noir et blanc, alors qu'avant ça, elle avait des couleurs incroyables. Et c'est une artiste incroyable. Puis quand j'étais à Meknès, au Maroc, justement, pour présenter Hola Frida, je tombais sur une jeune auteure algérienne qui, elle, commençait à écrire la vie parce qu'elle a été élevée dans le village de cette peintre. Donc, l'un de nos projets, ça va être ce projet-là.
Karine Vézina, André Cady, merci beaucoup pour votre temps.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Vous pouvez nous écouter quand vous le souhaitez. Téléchargez émissions, interviews et actualités à la demande. Visitez la page sbs.com.au/french.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.